ressuscité. À toi la victoire.
Mes amis, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Les mesures de sécurité nous obligent à ne pas nous rassembler pour adorer notre Dieu. Heureusement, nous avons les moyens techniques afin de fournir à nos membres la possibilité de se retrouver tous les dimanches, plus ou moins au même moment, pour méditer la parole et louer notre Dieu. Je vous remercie de m'accueillir dans votre salon pour partager ce moment de culte. Je suppose que vous êtes bien installés et que tout comme moi, vous attendez avec impatience ce moment privilégié d'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre frère Jean-Luc qui nous apportera ce que le Seigneur lui a mis à cœur de partager avec nous. Nous commençons notre culte d'adoration comme si nous étions physiquement assemblés ensemble dans notre si jolie chapelle. Alors pour nous mettre dans l'ambiance, je vous demanderai de fermer momentanément les yeux. Avec un peu d'imagination, nous pouvons ainsi mieux nous voir. Je suis installé derrière la chaire et sur le côté, à ma gauche, se trouvent Jacqueline et son piano. Jacqueline attend mon signal pour lancer le premier chant. Je vous demande de faire encore un petit effort d'imagination. Juste derrière moi, vous apercevrez Simone. Simone et sa guitare. Comme je le dis à peu près chaque dimanche, Simone, c'est un peu notre Jimi Hendrix à nous. À côté de Simone se trouve notre sœur Colette. Colette et sa flûte enchantée. Tout le monde est prêt ? Alors allons-y. Enfin, allons-y, pas si vite. Avant de commencer, je voudrais nous mettre en garde. Nous ne sommes pas au cinéma. Nous ne sommes pas des spectateurs. Le grand danger, c'est que petit à petit, nous devenions des consommateurs de la parole. Être derrière un écran ou devant son haut-parleur nous rend passifs. Nous devons veiller à être dans une attitude d'adoration et de communion. Demandons l'aide au Père afin d'avoir, par l'Esprit, nos pensées tournées vers le Seigneur durant ces moments de culte. Que cette période fasse de nous de plus grands adorateurs et non pas de plus gros consommateurs. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous voulons être des acteurs. Et c'est ainsi que je vous invite à chanter avec nos musiciens. Ce chant, ce merveilleux chant, qu'il est beau de louer, qu'il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Thank you. Mes amis, qu'est-ce que vous chantez bien ? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à l'écoute de ce chant d'assemblée, mon cœur se serre. Mon cœur se serre et la chair de poule couvre mon corps. Qu'est-ce que vous chantez bien ? Sans effort, nous pouvons entendre notre frère Henri, notre cher Victor. Quelle joie aussi d'entendre la seconde voix de Jacqueline, ainsi que le canon qu'elle entonne avec force et joie. Combien ces moments précieux me manquent. Maintenant, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre des psaumes. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus intelligent que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ainsi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe ta loi et la justice ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton statut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne me laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute, écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais, par tes préceptes, que tu les as établis pour toujours. Vois, vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons nous joindre au roi David dans le psaume 119 qui nous parle de tes préceptes, qui nous parle de ta parole, de tes promesses, qui nous parle de ton jugement, de tes commandements. Seigneur, nous voulons te dire que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous nous réjouissons d'avance d'entendre ta parole. Dans un instant, nous allons laisser notre frère nous annoncer ce que tu lui as mis à cœur de partager. Seigneur, nous nous réjouissons parce que tu nous enseignes. Tes ordonnances, Seigneur, font la joie de notre cœur. Tes commandements, ô mon Dieu, tes promesses sont notre appui. Seigneur, je veux observer ta loi et ta justice. Avec le roi David, Seigneur, je te dis, je te prie, agis envers moi, envers mes frères et sœurs de l'église de Blény, envers tous les chrétiens du monde qui te prient, qui te louent pour l'instant dans le monde entier. Agis envers nous selon ta bonté. Amen.
Me couvrez mon tour, toujours. Bonjour à tous. Je sais que nous sommes au milieu des vacances, mais j'aimerais vous parler de l'école. L'enseignement est la base de la vie. Sans savoir, on ne sait rien. Oh là là, Jean-Luc, quelle logique! Mais parfois on sait, mais on ne sait pas. Eh ben, de mieux en mieux, Jean-Luc. Je ne vais pas m'aventurer dans la description de la transmission du savoir que l'on sait et que finalement on ne sait pas. Jean-Luc, t'as fini? Si tu continues, c'est toi qui es fini. J'ai voulu faire cette petite démonstration pour vous montrer que ce n'est pas toujours facile et évident de faire passer un message qui sera compris, accepté, surtout exploité et mis en pratique. Je vous fais remarquer, entre parenthèses, que je me parlais à moi-même. Ne vous sentez dès lors pas concerné. Mais je laisse la parole à quelqu'un qui sait. Enfin, qui pense savoir. Enfin, écoutez.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais ». Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais. Puis moi je savais, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Après cette petite introduction du savoir, j'aimerais partager avec vous deux textes bibliques. Et je vous propose d'abord de lire dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 21 à 28. Et mes lectures se feront dans la version de Louis II, 1910. La loi est donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui était promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui était et qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et une deuxième lecture, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, versets 4 à 8. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Amen. Prions. Père éternel, encore merci de cette parole, de ces textes qui ont traversé les siècles encore une fois. Merci de nous ouvrir l'esprit, d'ouvrir nos oreilles, pour que nous puissions encore une fois entendre ta voix, entendre ce que tu as à nous dire. Et de nous avoir les yeux fixés sur toi et les oreilles de notre cœur ouvertes complètement. Qu'à toi revienne toute la gloire. Merci de tant d'amour envers nous. Amen. Peut-être que vous vous posez la question, quel rapport entre l'introduction sur l'enseignement, sur le savoir et nos deux textes qui nous parlent de la loi. Relisons le verset 24 de l'Épître aux Galates, chapitre 3. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La version de Louis II n'est peut-être pas tout à fait de notre temps, mais c'est une des seules versions qui utilise le mot « pédagogue ». Vous trouvez dans d'autres traductions « surveillant »,« guide » ou « précepteur ». « Pédagogue » est issu du terme grec « pédagogos ».« Pédagogos »,« pédagogue », »,« celui qui dirige un garçon ». Voilà la définition. Un tuteur, un gardien et guide de garçons. Parmi les Grecs et les Romains, le mot était appliqué aux esclaves, dignes de confiance, qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons, appartenant aux classes supérieures, évidemment. Les garçons ne pouvaient faire le moindre pas hors de la maison sans ces tuteurs, tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Dans l'Antiquité, à Rome, c'était aussi un précepteur chargé de l'instruction d'un enfant de famille riche. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a le sens de l'enseignement. Le pédagogue, à l'époque de Paul, est donc quelqu'un qui guide jusqu'à la maturité. Mais pourquoi utilise-t-il donc ce terme pour la loi ? Je vous signale au passage que ce terme « pédagogos » n'est utilisé que trois fois dans le Nouveau Testament, une fois dans 1 Corinthiens 4:15 et traduit par maître, et les deux autres fois dans notre texte que nous avons lu. Ce n'est donc pas un terme courant dans la Bible. La loi, dans notre cas, est personnalisée en un esclave digne de confiance qui guide les enfants vers une maturité empreinte d'une éthique morale de vie. À l'époque de Jésus, le pédagogue est donc celui qui veille sur l'éducation. Il mène l'enfant vers un sommet de savoir et de comportement digne de la haute société dont il fait partie et qu'il représente. À ne pas confondre avec le frère ou le cousin qui, dans certains pays bien connus, servait de chandelle aux côtés d'une fille pour protéger sa virginité lors de ses sorties. Non, le pédagogue sert à faire de l'enfant, dans notre cas du garçon, un homme, un vrai. Chez les Grecs, la culture, l'éducation, le savoir étaient prioritaires sur toute autre activité. Les enfants devaient être enseignés, surtout les garçons de familles riches. Bon, n'attaquons pas la Bible pour discrimination, nous verrons bien que l'équilibre sera rétabli. Comment la loi pourrait-elle nous faire arriver à maturité? Aujourd'hui, la majorité, selon la loi belge, est à 18 ans. Avant, elle était à 21 ans, et avant d'atteindre la date de quand on devient grand, tous sont soumis à leurs parents. Entre autres, il faut demander pour se marier, il faut une autorisation pour quitter le pays, il faut dépendre des autres pour se déplacer. Et quand les enfants font des bêtises, les parents payent, jusqu'au moment où ils sont majeurs, où ils sont libres, selon les dires des jeunes qui ne comprennent pas, qui n'ont rien compris. Ça y est, Jean-Luc, tu délires de nouveau. La loi donne des marques, des balises, des limites, mais suivant la manière de l'interpréter, elle pose parfois problème. Un exemple que nous avons vécu. Nous sommes avec un virus mondial, très dangereux sur le dos. Pendant le confinement, la loi disait « Les magasins rouvrent, le masque est obligatoire pour tous les travailleurs et fortement conseillé pour les clients. » Si nous prenons la loi au pied de la lettre, en tant que client, que je mette ou non le masque, je ne suis pas en tort. Mais si je réfléchis un peu à ce que veut dire « fortement conseillé », la loi devient un guide qui me conduit vers une maturité de sécurité aussi bien pour moi que pour les autres. L'application devient une question de bon sens. La réflexion de la personne immature « Si on m'oblige à mettre le masque, qu'on m'en donne un gratuitement ?» C'est ce qui était fait. Un dicton populaire dit que la loi est faite pour la détourner. Il y a des gens qui passent leur temps à vouloir faire le contraire qu'à appliquer la loi. S'il en était autrement, nous n'aurions plus besoin de policiers. Pourtant, Dieu utilise la loi comme pédagogue, comme enseignant, comme guide vers la maturité. Suivant les situations, avoir un code de loi est absolument nécessaire et applicable à la lettre. Prenons l'exemple du code de la route. Si tu grilles un feu rouge, tu prends d'énormes risques. Par contre, si tu vas en Angleterre, tu as intérêt à te soumettre au code de la route du pays. Si tu fais ta forte tête en prétendant qu'en Belgique, je roule à droite et que je fais pareil au Royaume-Uni, où tout le monde roule à gauche, eh bien, ma vie et celle des autres est en danger. Mais qui ne s'est jamais fait prendre? Et comment Paul peut-il dire que la loi est un pédagogue? Pour certains, elle est souvent casse-pied, elle interdit d'être libre. Et c'est ce que dit le verset 23 de Galates 3. Avant, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Mais Dieu s'est servi de la loi pour nous mener à la foi. Par ce moyen, Dieu a révélé le péché. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de code d'éthique. L'homme et la femme étaient entièrement nus et ils n'en avaient pas honte. La chute a fait basculer la plénitude de la vie dans l'atrocité de la mort. Oh, ne blâmons pas Adam et Ève, nous aurions fait pareil à leur place. Si nous relisons les codes de loi de divers pays, suivant les situations, ça bloque. Nous avons pu constater que les exigences du déconfinement n'ont pas été faciles à mettre en place pour nos ministres et que le vote de nouvelles règles est souvent cause de contestation. J'en ai pour preuve le nombre de pétitions, de manifestations, de rébellions qui circulent uniquement dans notre petit pays de 10 millions d'habitants. Imaginez une loi qui doit mettre d'accord 7 milliards d'êtres humains. Il faudrait être Dieu pour cela. C'est le défi que Dieu a relevé devant le mal qui ronge l'homme depuis Adam. La loi de Dieu n'est pas pour écraser et réduire à néant l'homme perverti. La loi de Dieu est un pédagogue, un enseignant, pour conduire à la maturité, pour rendre l'homme libre. Dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu lui-même dira de sa loi qu'elle sortira de lui pour être la lumière des hommes. Il est un fait que, devant un tribunal, le verdict de culpabilité est donné par rapport à un article de loi. Tu voles ? Tu payes pour ce délit. Tu dépasses la vitesse autorisée ? Tu te verras infliger une amende. Tu maltraites ton prochain ? Tu feras certainement de la prison. Mais dans tout cela, rien n'est jamais terminé. Tous les jours sont présentées des nouvelles restrictions ou libertés. Liberté entre guillemets. La loi peut interdire de fumer dans les lieux publics, par exemple, mais elle peut aussi libérer de l'avortement, si on peut dire. Interdire ou libérer. Ou encore donner de l'espace ou enfermer. La loi des hommes est enfermée sous le péché, nous dit le texte de l'Épître aux Galates. Et Ésaïe nous décrit qu'il y a liberté pour ceux qui ont la loi de Dieu dans leur cœur. Liberté. Alors que le monde se débat dans ses conseils de sécurité, ses organisations mondiales pour une meilleure qualité de la vie humaine, pour un monde meilleur, Dieu parle et l'on n'y prend point garde. La loi peut nous montrer ce qui est mal et ce qui est bien. C'est dans ce sens qu'elle nous enseigne, qu'elle nous éduque. Mais une fois que l'on sait, rien ne peut nous justifier de nos bêtises ou délits, si ce n'est de payer et de réparer. Si tu casses la vitrine d'un commerçant, il est normal que tu le dédommages. Mais si tu ne te fais pas attraper, tu échappes à la condamnation et tu es libre. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Nous sommes tous voués à la mort par nos actes et nos pensées. Personne ne peut prétendre qu'il est pur et sans reproche. Mais pour Dieu, il a fallu juste une lettre changée en français pour que la loi devienne foi. Si par la loi nous avons découvert nos transgressions, par la foi nous pouvons être libérés et nous sommes devenus fils et filles de Dieu, pour autant que nous l'acceptions. Tout enfant adopté veut connaître ses origines. Nous, nos origines sont divines. Nous étions des hommes et des femmes, heureux en présence du Créateur. Nous nous sommes perdus en n'en faisant qu'à notre tête. Mais en Jésus-Christ, nous sommes restaurés, nous sommes libérés de ce qui nous écrasait. Nous sommes redevenus des enfants du Père. Et c'est avec ces promesses que nous pouvons vivre. Même si la terre tombe en lambeaux, même si les cieux s'évanouissent comme une fumée, même si les habitants périssent comme des mouches, la justice de Dieu n'aura pas de fin et son salut sera éternel. Les images que nous avons eues des journaux télévisés nous ont rappelé qu'il a fallu se battre pour l'abolition de l'esclavage. Mais la Bible, parole de Dieu, nous dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais tous nous sommes un en Jésus-Christ. Si le monde entier avait cette foi qui remplace la loi, il n'y aurait plus de manifestations ni de gens mécontents. Ça je le sais, mais est-ce que tout le monde le sait? Jésus, quand il est reparti sur la terre, nous a laissé une mission. Allez faire de toutes les nations des disciples. et c'est tout. »
Non. Non, il a continué. « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. »
Enseignez. Voilà la solution. Des émeutes auraient pu être évitées si les participants avaient été au courant de certains morceaux de l'histoire. L'enseignement, le pédagogue, le savoir, l'intelligence, la sagesse peuvent être des instruments de paix et de tranquillité pour l'homme. Jésus a bien dit « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Ce que je vous ai prescrit. Si vous allez chez le médecin et qu'il vous dit ce que vous avez comme maladie et qu'il vous fait une ordonnance, et en sortant de chez lui, vous vous dites « C'est un charlatan, je ne crois pas ce qu'il me dit, je ne vais pas suivre ses indications pour guérir. » Vous vous exposez à continuer à être malade et à certainement mourir. Avec Jésus, c'est la même chose. Il faut y croire et mettre en pratique ses prescriptions, ses ordonnances. C'est seulement à cette condition que la loi condamnante deviendra une foi vivante. La pédagogie passe par là. Amen.
Avant de nous quitter et de terminer ce culte, je vous invite à une lecture dans Romains 10, 2 versets 13 et 14. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Nous avons... En tant que chrétien, un devoir d'enseignement, enseigner nos contemporains sur la loi de Dieu, qui est lumière, justice et liberté par la foi. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est avec foi et espérance que nous voulons nous accrocher à tes promesses. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge, dit l'Éternel. Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Je vous rappelle notre rendez-vous de prière à la maison tous les mardis entre 19h et 19h30. Confinés, un peu déconfinés, mais pas séparés. N'hésitez pas à visiter le site des communautés d'Erstal-Sherat avec lesquelles nous nous sommes en synergie. Maintenant que vous savez, que la grâce et la paix vous accompagnent sur le chemin de votre vie. À bientôt. Amen.